BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Stéphane Pedraxi.
Et à la une de l'actualité cet après-midi, la réaction mesurée des marchés financiers. L'attaque ce week-end de l'Iran sur l'État d'Israël n'a pas entraîné de mouvement de panique sur les marchés, Aude Kersulec.
Et non, c'est vrai qu'on connaît une belle hausse hein, là sur les marchés. On a le CAC 40 qui prend plus de 1%, 1,2% au-dessus hein, des 8100 points. Et d'ailleurs, les valeurs du CAC 40 qui montent comme quasiment un seul homme, hein, puisque 32 des valeurs sont à la hausse, dont l'industrie et dont le luxe LVMH qui publiera ses résultats demain.
On vous retrouve dans un instant le reste de l'actualité avec un nouveau chiffre qui confirme la vigueur de l'économie américaine. Les ventes au détail ont progressé de 0,7% au mois de mars, pratiquement deux fois supérieur aux attentes. Le chiffre du mois de février a également été révisé à la hausse. Et puis sur le marché des smartphones, Apple a perdu la première place du classement au premier trimestre. Les ventes d'iPhone ont reculé de pratiquement 10%. Le titre Apple est en baisse sur les marchés américains. On y reviendra tout à l'heure avec Julien Marion et la famille BFM Bourse. Ce sera à 16h45.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Et ce début de semaine, bien orienté à la Bourse de Paris, le CAC progresse de 1,2%. Aude Kersulec, on pouvait craindre le pire après ce qui s'est passé ce week-end.
Et oui, les marchés actions qui continuent de nous étonner encore un petit peu plus parce que là, on fait complètement fi quand même de ce qui s'est passé ce week-end entre l'Iran et Israël, comme s'il n'y avait pas du tout de risque géopolitique parce qu'on repart vraiment franchement à la hausse. Hein, plus 1,2% sur le CAC 40. C'est pareil en Europe, hein, plus 1,4% sur l'Eurostoxx 50. Le DAX à Francfort qui monte également de 1,3%. Et c'est vrai que Wall Street aussi a confirmé cette tendance hein, puisqu'on a ouvert en hausse aussi, il y a maintenant un petit peu plus d'une demi-heure. Alors, qu'est-ce qu'on a qui monte à l'intérieur de l'indice parisien? On a notamment l'industrie, on a Stellantis, tiens, avant l'Assemblée Générale qui aura lieu demain matin, où la rémunération de Carlos Tavares devrait être confirmée, plus 3,4%. C'est la plus forte hausse du CAC 40, 25,23 €. Et les investisseurs qui sont décidément dans l'anticipation, parce qu'on a LVMH qui monte aussi, LVMH qui publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre demain soir, plus 2,4% à 800,20 € devant encore Hermès ou encore tiens Safran, Thales. On voit quand même hein, ces valeurs de la défense qui se positionnent aussi dans les premières places du CAC 40, même si on a les trois quarts hein, de nos valeurs qui montent cet après-midi à Paris. On n'a pas de grosse chute d'ailleurs sur le marché. Alors ce qu'il faut regarder, c'est quand même ce qui se passe sur le marché obligataire. Là, c'est un petit peu plus tendu. Hein. On voit avec le taux 10 ans américain qui est repassé au-dessus des 4,6%, 4,64%. Donc voilà, ça continue encore de monter. On a bien pris 15 points de base hein, depuis quelques heures. Et ça monte aussi sur les autres taux européens, le 2,94% pour le taux 10 ans français et 2,44% pour le taux 10 ans allemand. Alors que sur les autres marchés, on a le Brent qui recule encore un petit peu, $89.40 finalement. Et bien, il prend un peu le sens inverse de ce qu'on pensait hein, ce matin après les tensions et l'attaque de Téhéran sur Israël ce week-end. Et bien finalement, pour le moment, sur le pétrole, ça reste assez calme. Ça avait peut-être aussi été anticipé vendredi hein, quand on avait eu bruit de ces attaques. Donc le pétrole qui recule et Total Energy d'ailleurs qui recule également moins 0,7% à 68,59 €. Et donc ce CAC 40 qui prend pour le moment plus de 1%.
Merci beaucoup Aude, vous restez avec nous, on accueille Eric Lewin, directeur des publications Agora. Bonjour Eric.
Bonjour mon cher Stéphane.
Le CAC qui rebondit très nettement en ce début de semaine, comment est-ce qu'on explique le calme des marchés malgré l'attaque contre l'État d'Israël?
Ben écoutez, il y a plusieurs éléments. C'est vrai que ça se calme sur le pétrole hein, qui perd 1%. Et puis écoutez, tant qu'il n'y a pas la fameuse fermeture du détroit d'Ormuz, vous savez, par lequel transite plus de 20% de la production mondiale de pétrole, tant que Israël ne riposte pas, il n'y a aucune raison, je le dis bien, d'être inquiet sur les marchés d'un point de vue géopolitique. Et puis on a eu des bonnes nouvelles du côté des États-Unis. Il y a eu deux bonnes nouvelles aujourd'hui. On a eu des ventes de détail qui ont augmenté plus que prévu sur un mois aux États-Unis. C'était pas prévu et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que l'économie américaine poursuit sur des bases plus que solides. Et puis on a eu Goldman Sachs qui progresse actuellement après un bénéfice du premier trimestre nettement supérieur aux estimations, avec notamment une banque d'investissement qui se porte bien. Et donc quand vous avez la conjugaison de tout ça, puis une fin de semaine dernière un peu compliquée, ben ça explique un petit peu la hausse de ce jour qui est certes spectaculaire, et comme le conflit n'a absolument pas dégénéré au Moyen-Orient, et que finalement à part un blessé grave, une fillette, je crois que c'était du côté du Negev, il n'y a pour l'instant pas d'inquiétude réelle à avoir.
Parmi les valeurs en baisse, Eric, on a Total Energy qui recule légèrement dans le sillage des cours du pétrole. L'attaque contre Israël ce week-end n'a pas entraîné de flambée des cours. On a même un pétrole qui repart à la baisse. On est repassé sous la barre des $90 pour le Brent.
Oui, alors juste sur Total Energy avait fait un plus haut historique, c'était en fin de semaine dernière, l'action gagne 11% depuis le début d'année. Ce qu'il faut dire quand même, c'est vrai que le pétrole a tendance à baisser, mais quand vous regardez par exemple Stéphane, le Brent depuis le début d'année gagne 15%. Sur le cap total, je considère que ça reste quand même un très bon investissement. Un, il est vraiment beaucoup moins valorisé que l'ensemble de ses concurrents, avec des coûts de production de $5, hein, il a des coûts de production nettement inférieurs à tous ses concurrents anglo-saxons. Il y a une super gestion du groupe, le cash flow opérationnel l'an dernier c'est le 36 milliards, il y a eu 47% pour les investissements et 46% pour l'actionnaire via des rachats d'actions et des dividendes. Et donc, je le disais, le TNIT n'est pas très cher, ça vaut 7 fois les bénéfices, il y a un rendement entre 3,5% et 4%. Moi, je considère que toute baisse des cours doit être une justification pour acheter Total Energy, que je verrais bien les tutoyer dans un avenir proche. Les 80 euros, ça reste un très beau dossier. Bon, alors là, aujourd'hui, la consolidation, elle est classique, le baril perd un petit peu de terrain. C'est également le cas de Total.
On va jeter un œil au titre Eramet. C'est une valeur qui se reprend dans le sillage des cours du nickel.
Oui, alors Eramet, lié au manganèse, au nickel et au lithium. Ce qui s'était passé l'an dernier, c'est que Eramet avait vu son chiffre d'affaires baisser de quasiment 30%. EBITDA en recul de 59%. Pourquoi ? Parce que manganèse, nickel avaient fortement baissé. Ce matin, on a vu qu'il y avait des nouvelles sanctions contre les métaux russes de la part des Britanniques et des Américains. Ça a permis au nickel, je crois qu'actuellement, il doit gagner 2%. Ça fait plus 10% depuis le 1er janvier. Du côté du manganèse, Eramet a un gros concurrent qui s'appelle Gemco, qui a subi un cyclone tropical au large de l'Australie. Ce qui veut dire que le premier trimestre, on a une production qui était complètement paralysée. Donc ce qu'on peut dire sur ce petit dossier Eramet, c'est l'un des dossiers qui est complètement en retard par rapport à l'ensemble des valeurs de la cote, puisqu'en sur un an, le titre perd 27%. Et franchement, je suis positif sur Total, je suis également positif sur Eramet, qui n'est pas très cher, mon cher Stéphane, au cours actuel. Ça vaut 6 fois les bénéfices. Et Eramet, attention, ce qui est intéressant, c'est que pour jouer la transition énergétique, c'est pas mal. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des activités au Chili et surtout une usine en Argentine qui va être dans son plein potentiel dès le second semestre, donc pour jouer ce lithium. Et vous savez que le lithium, on en a beaucoup besoin pour la transition énergétique. Donc ça me paraît un beau dossier de retournement que cet Eramet, surtout si le manganèse et le nickel continuent de se réapprécier.
Et puis un petit mot des entreprises qui vont publier cette semaine. On a notamment LVMH et L'Oréal qui vont dévoiler des chiffres.
Oui, alors très vite sur LVMH, L'Oréal, ce qui est intéressant, c'est que ces deux valeurs ont perdu quasiment 8% en l'espace d'un mois. Alors ce qui se passe, c'est que on s'inquiète bien évidemment sur la Chine. On aura, je crois, cette nuit à 2h du matin, le PIB chinois qui est attendu à plus 4,6% alors qu'on était à plus 5,2% sur le quatrième trimestre 2023. Ce qu'on peut dire sur LVMH, c'est qu'on attend une croissance organique à simplement 3% parce que le T1 2023 avait été très élevé. On a une base de comparaison très élevée, puisque vous savez, c'était le rebond des ventes lié à la levée par Pékin des mesures sanitaires liées au Covid. C'est revenu sur un niveau de valorisation acceptable, ça vaut 24 fois les bénéfices. A priori, s'il n'y a pas de trop mauvaise surprise, LVMH devrait bien s'en tirer. Du côté de L'Oréal, c'est vrai qu'ils viennent perdre 8% en l'espace d'un mois. La grande problématique du groupe, on attend une croissance organique de l'ordre de 7%, et donc la grande problématique, est-ce qu'ils seront capables de faire aussi bien qu'en 2023? Je vous rappelle qu'en 2023, 41 milliards de chiffre d'affaires plus 11%, marge opérationnelle de 19,8%, free cash flow plus 24% à 6,1 milliards. Si je vais faire un pari entre les deux, je serais plutôt LVMH que L'Oréal. Mais attendons de voir, il faudra quand même regarder vraiment les indications en provenance de Chine, parce que tous les derniers indicateurs disent quand même que ça ralentit du côté de l'empire du milieu.
Merci beaucoup Eric Lewin, directeur des publications Agora. On se retrouve tout à l'heure après la clôture du marché parisien pour faire le bilan de cette première séance de la semaine. On retourne à Euronext, Aude Kersulec. On va s'intéresser à BNP Paribas. Le titre est en nette progression, Aude.
Oui, c'est vrai, plus 1,2%. Alors, on a eu pas mal d'annonces en fin de semaine de la part d'une autre banque, hein, Société Générale. C'était des cessions. Cette fois-ci, BNP Paribas qui a annoncé prendre une participation dans un assureur belge. Il s'agit de AGEAS. Alors, c'est vrai que c'est un partenaire de longue date, mais cette fois-ci, BNP Paribas va acquérir une participation d'environ 9%. Donc, on est loin quand même du contrôle. Mais cette participation, elle est actuellement détenue par le groupe chinois Fosun, qui va en conserver encore un peu. Mais pour BNP Paribas, ça va coûter 730 millions d'euros et ça va aussi impacter d'ailleurs son ratio de fonds propres de 2 points de base. En tout cas, c'est apprécié par les marchés. C'est vrai que BNP Paribas se paye actuellement sur des ratios de moins de 7 fois les bénéfices sur les le bénéfice de l'exercice en cours. C'est inférieur à son secteur d'activité, d'autres banques comme Société Générale ou Crédit Agricole. Donc plus 1,2%. On a le secteur bancaire qui est à la hausse aussi cet après-midi parce que du côté des États-Unis, on a forcément les publications. Goldman Sachs qui monte de plus de 4%. JP Morgan aussi qui, après avoir perdu 6% vendredi, eh bien la remonte un petit peu la pente, plus 2%. Donc, c'est un secteur qui a la cote. Et puis, pendant qu'on parlait quand même depuis tout à l'heure, on a le CAC qui est passé sous la barre des 1%. On ne monte plus que de 0,8%.
Merci beaucoup, Aude Kersulec, en direct du siège d'Euronext. En ligne avec nous, Benjamin Sacquet, directeur associé chez Avantgarde Family Office. Bonjour Benjamin.
Bonjour Stéphane.
On va parler de notre valeur ajoutée. Le titre Unibail Rodamco Westfield, c'est l'un des leaders mondiaux de l'immobilier commercial. On va d'abord dire quelques mots sur l'entreprise. C'est vraiment un groupe foncier de référence pour les centres commerciaux.
Absolument Stéphane, j'aime bien illustrer, hein, quand je parle d'Unibail, j'aime bien illustrer en disant quels centres commerciaux ils ont et à quel endroit. Vous avez les 4 temps à la Défense, Châtelet-Léal-CE, le Carrousel du Louvre-CE, Euralil-à-Lille-CE, la Part-Dieu à Lyon-CE. Ils ont aussi un portefeuille de bureaux et de congrès, hein, par exemple le Palais des Congrès de Paris, rien que ça, ou encore le Parc des Expositions de Versailles qu'on connaît tous quand on habite à Paris. En synthèse, vous êtes vraiment sur des actifs de premier plan, et ça, ce point-là va être vraiment très important pour la suite de mes explications. J'ai cité des emplacements en France parce que ça parle aux gens qui nous écoutent, mais ce maillage, vous pouvez le dupliquer dans plusieurs pays d'Europe et même outre-Atlantique.
Actifs de premier plan, vous le dites. En revanche, le titre, lui, depuis quelques jours, il patine un peu sur les marchés.
Alors, depuis même quelques années, même si c'est bien repris, c'est complètement vrai, c'est aussi là que se cache la bonne idée. Je vous refais les 6 dernières années d'Unibail en quelques mots, pour qu'on comprenne vraiment le contexte. Ils achètent Westfield sur un haut de marché, les loyers ne couvrent pas les intérêts, le levier évidemment est très stratégique dans ces opérations où ils se mettent en difficulté. Ensuite, vous avez eu la Covid, la concurrence du commerce en ligne qui met en difficulté tout l'immobilier commercial. Vous avez aussi des rumeurs d'augmentation de capital au plus bas. Je rappelle que c'est un titre qui est passé de 200 à 30 euros. Et finalement, vous avez Xavier Niel et l'ancien directeur de la structure qui montent au capital et prennent les rênes. Depuis, le changement est très clairement palpable avec un alignement des intérêts. La société a notamment repris la distribution des dividendes qu'elle a stoppée pendant plusieurs années. Je pense qu'on peut dire que le pire est clairement derrière nous.
En termes de recommandations, vous êtes neutre, vous, sur la valeur?
Exactement, on est neutre malgré, on va dire, ce florilège de compliments que je fais au titre. On est neutre sur plusieurs raisons. Déjà, on estime que le marché dans sa globalité est plutôt optimiste, sans parler d'euphorie. Donc nous, on doit trouver des alternatives pour quand même sortir du rendement. Chez Avantgarde Family Office, on fait ça en partie, avec plein d'autres outils on peut le faire, mais en partie via des produits structurés. Et sur Unibail, vous avez justement en ce moment des primes de risque intéressantes qui permettent d'aller chercher des rendements autour de 10%, même dans des scénarios que nous, on considère plutôt cataclysmiques. Une des métriques clés à regarder très clairement sur un Unibail ou sur une foncière, c'est la décote relative à l'actif net. C'est-à-dire la décote par rapport à la valeur réelle. Et aujourd'hui, 70 à 80 euros, pour nous, c'est clairement plutôt ce qu'on appelle un fair price, le prix correct sur Unibail. Et c'est pour ça qu'on estime que c'est plutôt une bonne idée d'en mettre en place sur ce type de stratégie. Évidemment, l'avis qu'on retrouve quand même en trame de fond est globalement assez positif sur le titre. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, Stéphane.
Merci beaucoup Benjamin Saquet, directeur associé chez Avantgard Family Office. Il est 16h16, on va parler de l'économie américaine.
BFM Bourse, l'écho du monde.
Parce que les derniers chiffres confirment en effet la bonne vigueur de l'économie américaine, les ventes au détail ont progressé de 0,7% au mois de mars. On va mettre ce chiffre en perspective avec Bastien Dru, économiste chez CPR Asset Management. Bonjour Bastien.
Bonjour.
Plus 0,7%, c'est pratiquement le double de ce qui était attendu et le chiffre de février a également été révisé à la hausse.
Oui, donc on a des ventes au détail qui sont sorties au-dessus des attentes, assez clairement, donc à plus 0,7% sur le mois de mars. Alors c'est un bon chiffre qu'il faut quand même relativiser, pour lequel il faut prendre un petit peu de recul. Le premier élément, c'est le fait que Pâques était très tôt cette année en avril, et donc ça a pu précipiter des dépenses de consommation fin mars, et donc gonfler un petit peu artificiellement les chiffres dont on vient de parler. Donc ça, c'est assez probable. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, certes, c'est un bon chiffre, mais lorsque l'on regarde les ventes au détail réelles, c'est-à-dire les ventes au détail après avoir retiré l'effet prix, si on veut, eh bien, les ventes au détail réelles, elles sont inférieures à là où elles étaient il y a 3 ans. Donc, en d'autres termes, la dynamique de consommation réelle de biens aux États-Unis, elle est quasiment à l'arrêt. Contrairement aux dépenses de consommation liées aux services qui, elles, sont en train de progresser assez rapidement. Donc, en résumé, je dirais que le plus important, probablement, c'est que la consommation ne craque pas aux États-Unis et c'est ça qui permet à la Fed de ne pas se précipiter vers des baisses de taux directeurs.
Mais justement, est-ce qu'on peut considérer que ces chiffres renforcent un peu plus l'hypothèse d'un statu quo monétaire aux États-Unis qui se prolongera peut-être jusqu'aux élections ?
De toute façon, c'est ce qui est anticipé par les marchés. Hein. Donc là, je dirais qu'on a eu une réaction à ces chiffres, une réaction de marché qui était assez forte à ces chiffres. Il y avait déjà eu surtout la réaction aux chiffres d'inflation la semaine dernière, donc les chiffres d'inflation de mars qui avaient fortement affecté les anticipations de marché. Maintenant, on a une première baisse de taux qui est attendue vers novembre et le marché attend entre 1 à 2 baisses de taux cette année, alors que il y a quelques semaines, le marché en a anticipé 6 ou 7. Donc, il y a vraiment eu un très fort changement en ce qui concerne le pricing de marché. C'est notamment parce qu'il y a eu différentes prises de parole. Enfin, il y a les chiffres, mais aussi les différentes prises de parole des membres du FOMC qui ont indiqué qu'ils ne souhaitaient pas se précipiter, mais malgré tout, on sent quand même chez certains cadres de la Fed, donc là je pense surtout à Jerome Powell ou à notamment John Williams, le président de la Fed de New York, je pense que chez eux, il commence à y avoir un certain malaise vis-à-vis de ce pricing de marché et avec peut-être trop peu de baisses de taux qui sont anticipées. En tout cas, ils n'ont pas envie que ce mouvement auquel on est en train d'assister s'amplifie. Et c'est probablement pour ça qu'ils essayent d'insister de plus en plus sur la tendance de l'inflation, c'est-à-dire essayer de regarder vraiment l'évolution de l'inflation sur une série de chiffres et pas seulement sur les derniers points. Et pour rappel, hein, l'indicateur d'inflation qui est le plus suivi par la Fed, c'est pas le core CPI qui a été publié la semaine dernière et qui, lui, était resté très fort à 3,8%. Et ce qu'on appelle le core PCE, qui était à 2,8% sur le mois de février, qui devrait probablement aller à 2,7% sur le mois de mars. Et donc, cet indicateur d'inflation que la Fed regarde le plus, il est quand même malgré tout en train de converger vers les 2%. C'est pour ça que la Fed ne sera pas forcément très confortable avec le fait qu'il n'y ait pratiquement plus de baisse de taux qui soit pricée sur l'année 2024.
Plusieurs membres de la Fed ont pris la parole ce week-end, encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Ces prises de parole interviennent à une dizaine de jours de la réunion du comité de politique monétaire ?
De toute façon, là, pour le mois de mai, donc pour le prochain FOMC, c'est à peu près sûr qu'on n'aura pas de baisse de taux directeur. Maintenant, c'est ce qu'il faudra le plus attendre, ça sera les indications sur ce qui pourrait se passer lors du FOMC de juin. Et ce qui sera très important pour le prochain FOMC, donc celui de mai, c'est qu'il y aura l'indicateur d'inflation dont je parlais, le core PCE, qui sera publié quelques jours auparavant et qui montrera malgré tout une décrue de l'inflation sous-jacente. Et on verra comment l'interprète les membres du FOMC.
Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Bastien Dru, économiste chez CPR Asset Management. 16h21, on va parler portefeuille responsable.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Allez, comme chaque lundi, on va se pencher sur la performance de notre portefeuille BFM Responsable avec Frédéric Rosier. Bonjour.
Bonjour.
Co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. D'abord, une info qui concerne l'environnement et l'investissement responsable. La Suisse a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour son inaction climatique.
Oui, alors, c'est pas la Suisse, parce que honnêtement, la Suisse, en termes d'environnement, elle est plutôt mieux disante que l'ensemble, mais c'est une décision relativement importante dans la symbolique. Alors, on sait qu'il y a des sujets, notamment autour de la France, hein, on a fait quand même beaucoup d'actualités là-dessus, mais cette condamnation vient rappeler un engagement qui est fort aujourd'hui. L'inaction climatique a des conséquences. Alors, elle a des conséquences, bien sûr, sur le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, les premières victimes, on sait, c'est souvent des pays fragiles, dans des zones en développement, arides. Et cette décision va pousser, au-delà de la symbolique, peut-être une action beaucoup plus forte derrière des différents États pour accélérer cette transition énergétique. Donc, il ne faut pas sous-estimer cette nouvelle. Je pense que ça va accélérer un mouvement, une prise de conscience collective. Alors, il y a d'autres informations aussi. Il y a aussi, là, vous savez, on va rentrer dans les assemblées générales et on a ce qu'on appelle le Say on Climate, oui. C'est-à-dire cette décision, cette information qu'on doit donner aux assemblées sur la trajectoire, notamment net zéro des entreprises. Et on sait qu'il y a une navette en ce moment entre l'Assemblée et le Sénat pour justement plus formaliser ce devoir d'information, et notamment lors des assemblées. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'univers finalement de la transition énergétique, et ces deux nouvelles qui pourraient, on verra, je pense que le Sénat ne fera pas grand chose malheureusement sur ce sujet, mais voilà, c'est des choses qui vont plutôt dans le bon sens, et qui vont dans le bon sens notamment pour les entreprises qui aident bon nombre d'acteurs à accélérer cette transition énergétique. Je pense notamment à Schneider, par exemple, au sein du portefeuille BFM Responsable.
Alors justement, on va en parler de ce portefeuille. D'abord un mot sur la performance globale. Moins 0,6% sur la semaine et 3,9% de hausse pratiquement depuis le début de l'année.
Oui, alors la semaine dernière, on a surperformé. Alors le marché était complexe quand même la semaine dernière, puisqu'on était dans un climat de forte tension géopolitique. Les secteurs qui ont bien fonctionné la semaine dernière, il faut le rappeler, c'était surtout les matières premières, le pétrole, les matières premières même au sens large. Alors on le sait, c'est des secteurs qui sont très difficiles à implémenter d'un point de vue ESG. Il y a énormément de controverses là-dessus. On a décidé depuis le départ de ne pas mettre d'industrie pure pétrolière au sein du portefeuille, malgré tout. Ouais. Malgré tout, on a un biais quand même dans cet environnement. C'est la société Neste qui fabrique notamment ce qu'on appelle des SAF. Ce sont des biocarburants destinés à l'industrie aéronautique. Vous savez que l'industrie aéronautique est fortement polluante, c'est 2% des émissions de CO2, et qui a une trajectoire aussi pour implémenter ces biocarburants au sein de l'industrie aéronautique, 1%, 2%, on parle même jusqu'à 60% à 2050 pour arriver sur le net zéro sur l'aéronautique. Et finalement, c'est un titre qui réagit relativement bien à la hausse du prix du baril, puisqu'elle a monté assez fortement la semaine dernière dans un marché qui était assez contraint. Donc voilà, on a un peu, contrecarrer cette problématique oil sur le portefeuille par cette entreprise qui fonctionne très très bien depuis quelques temps déjà.
Entreprise finlandaise, le titre a gagné 2,7% la semaine dernière. Il perd encore un peu plus de 14% depuis le début de l'année. Quelle autre valeur?
Alors on a une publication, c'est Brunello Cucinelli qui est du luxe. Alors c'est vraiment du luxe. C'est de l'hyperluxe, on va dire. D'ailleurs, vu les multiples de valorisation sur cette entreprise, on est sur des multiples qui sont quasiment ceux d'Hermès. Donc, il faut bien comprendre qu'on est dans une entreprise qui est au-delà du simple L'Oréal ou LVMH. Donc, le marché... Enfin, faire attention à cette publication, faut être clair. On n'a pas le droit à l'accident sur une telle publication, sur de tels multiples.
Avec des niveaux de valorisation.
Sur des valorisations relativement élevées. On l'a vu par le passé. Ce qui était très intéressant, c'est que cette entreprise avait réussi dans un... dans un marché complexe, asiatique assez complexe, notamment marché chinois, à avoir quasiment un rebond de 50% de ses ventes. Lorsqu'on se rappelle des publications de LVMH, par exemple, ou L'Oréal, c'était vraiment à contre-courant, finalement, de la dynamique de l'ensemble du secteur du luxe. Ça prouve à quel point ces entreprises, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui sur le marché, ont une vraie capacité d'augmentation des prix et des volumes dans un univers macroéconomique plutôt dégradé. Donc, Brunello Cucinelli fait partie de ces entreprises. Voilà, malheureusement, ces multiples sont élevés, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, on sera extrêmement vigilant sur cette publication. Voilà, on le sait, il y a LVMH aussi qui va publier. Donc, c'est tout un univers finalement du luxe qui progresse assez fortement, bizarrement finalement, vu la conjoncture actuelle, qui rebondit assez fortement. Donc, il ne faudrait pas être pris à revers, effectivement, sur cette publication.
Le titre a perdu 0,3% la semaine dernière, ce qui était donc une surperformance par rapport au marché. Et il gagne 11,3% depuis le début de l'année. Un mot sur deux valeurs qui sont en baisse. On a Allianz et Veolia Environnement.
Oui, alors sur Allianz, plus généralement, c'est vrai qu'on a eu un mouvement sur le secteur de l'assurance. Alors, vous savez que c'est un secteur qui est très sensible aussi au niveau des taux d'intérêt. Donc, on a eu une faiblesse finalement sur les taux d'intérêt. Ça repart de l'autre sens. Donc, vous savez que c'est des entreprises qui sont très sensibles à la pontification de la courbe de taux.
Ouais.
Bon, là, c'est plutôt finalement une assez bonne nouvelle ce qui se passe, puisqu'on est à quasiment, par exemple, 3% sur le 10 ans français au moment où on se parle. Donc, on est en train de repartir relativement haut. Et Veolia, c'est plus honnêtement des prises de bénéfices qui ont eu lieu sur ce titre-là. Faut pas oublier aussi le côté cyclique, hein, puisque quand vous avez du Veolia, vous avez une partie qui est quand même très liée à l'industrie. Quand vous avez des chiffres un petit peu moins bons du point de vue industriel, vous pouvez aussi avoir une sensibilité négative.
Merci beaucoup, Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. Je vous rappelle la performance de notre portefeuille BFM responsable, moins 0,6% sur la semaine. Frédéric le disait, on a surperformé le marché parisien. Et depuis le début de l'année, on est en progression de pratiquement 3,9%. On marque une pause. À suivre, la famille, avec notamment Julien Marion qui va me rejoindre en plateau.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Stéphane Pedretti.
16h30 sur BFM Business, c'est l'heure de la famille, le moment où on peut parler de beaucoup de choses autour de la table et dans la bonne humeur avec Julien Marion. Bonjour Julien.
Bonjour Stéphane.
Journaliste un peu restreinte. BFM Business, BFM Bourse. La famille à distance avec Romain Daubry, marché dérivé et info d'expert chez Bourse Direct. Bonjour Romain.
Bonjour la famille.
On va parler des niveaux techniques dans un instant, mais d'abord un mot sur cette séance. Julien, on aurait pu s'attendre à un mouvement de panique sur les marchés, hein, après ce qui s'est passé ce week-end.
C'est vrai, mais on avait déjà un petit peu le hier avec les indices à Bourse de Tel Aviv qui ont pas vraiment... franchement, ça a terminé en très légère baisse, si mémoire est bonne, pour les indices principaux. Donc on pouvait s'attendre à ce que le marché relativise le risque géopolitique, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Et d'ailleurs, le CAC 40 a bien progressé. Là, en plus, on a eu un indicateur américain plutôt bon, alors meilleur que prévu. Je ne sais pas si good news is
oui,
bad news.
Good news is bad news ou l'inverse, oui, parce que finalement, ça renforce l'hypothèse d'un statu quo monétaire peut-être jusqu'à la fin de l'année aux États-Unis.
Après, on commence doucement à intégrer le fait que l'économie américaine est résiliente et que du coup, la Fed a une marge de manœuvre relativement restreinte pour baisser les taux.
Romain Daubry qui est avec nous. Romain, quelles sont les forces en présence sur cette première séance de la semaine ?
Alors, on a une semaine qui est particulièrement importante et justement, les forces techniques vont jouer. Elles ne sont pas très fortes. On a un petit solde vendeur globalement puisque depuis l'échéance des marchés dérivés du 15 mars dernier, donc l'échéance qui nous a permis de passer sur le mois d'avril, on a un petit solde vendeur qui s'est construit, mais c'est très faible, c'est assez léger. Que ce soit sur le S&P ou l'Eurostox, c'est un petit peu plus marqué sur le CAC 40, mais encore une fois, pas très fort. On n'a pas de stratégie baissière importante. Mais ça nous indique que les opérateurs ne payent plus, ça on pouvait le voir, et que ils attendent plutôt des replis pour créer des stratégies. Alors, soit rupture de niveau pour créer des stratégies baissières, soit atteindre des niveaux plus bas pour acheter sur repli. Et ça semble être vraiment le gros consensus actuellement. Par ailleurs, du côté du ratio de couverture dans les portefeuilles, où là où je vous indiquais il y a un mois de ça, une très forte complaisance de la part des opérateurs, eh bien, les warnings des derniers jours ont fait remonter très sensiblement les niveaux de couverture. On n'est plus en complaisance ni en optimisme. On est sur des ratios équilibrés avec, on va dire, un petit peu de prudence de la part des opérateurs. On n'a pas des niveaux de peur, mais un peu de prudence. Donc, ça veut dire que si des mouvements de baisse se mettaient en place, ils surprendraient moins les opérateurs qu'il y a un mois de ça, en tout cas. Donc, on a une consolidation qui est en place sur les grands indices depuis la fin mars, elle se poursuit, mais de façon très propre et très canalisée pour l'instant, avec cette échéance des marchés dérivés du mois d'avril qui se tiendra donc vendredi prochain, qui va être toujours et très souvent un pivot de marché. Le petit pari qu'on peut faire, c'est que jusqu'à l'échéance, ça tienne, sauf éléments géopolitiques majeurs qui viennent perturber tout ça, mais ça pourrait tenir jusque-là et peut-être consolider de façon un petit peu plus marquée après ce moment-là.
On est en hausse de 0,8% sur le CAC, 8075 points. Quels sont les niveaux à surveiller ?
On observe toujours le même trading range. Un petit cran plus bas sur le futur CAC 40. 7981 en bas sur le futur CAC 40 avril. C'est 8121 pardon, en haut, la borne haute du trading range. Nous, c'est le niveau qu'on a choisi pour reprendre une petite stratégie spéculative baissière pour aller travailler ces arbitrages-là. Si on repasse au-delà de 8121 et jusqu'à 8242, on est dans une forme de neutralité. On neutraliserait le mouvement baissier, mais on n'aurait pas de momentum haussier fort. Il faudrait vraiment repasser 8242 pour réactiver la dynamique haussière. On n'y croit pas beaucoup. Si en revanche, on casse 7981, on rompt l'alerte de court terme et on pourrait accélérer de façon assez significative en direction de 7776, 7817, qui semble un niveau de retracement assez optimal pour le mouvement de consolidation qu'on est en train de mettre en place. Sur le S&P, on a créé maintenant un canal baissier aussi qui s'est mis en place. C'est peut-être intéressant de le surveiller aussi, comme c'est l'indice majeur américain. On a été testé 5110 comme point bas la semaine dernière et on oscille autour de 5147 qui est vraiment un pivot. Pour réactiver la dynamique haussière sur le S&P, il faut repasser 5202 sous 5110. On a un risque d'accélération baissière de 3 à 4% complémentaire.
Et puis on va s'intéresser à une valeur, c'est Exahome. C'est un constructeur de maisons individuelles qui... Oui, je vois secouer la tête.
Alors, Exahome, c'était la semaine dernière, on en avait déjà parlé, mais je peux vous la réindiquer si vous voulez.
Ah, j'ai le mauvais message, mais on peut peut-être en dire un mot.
Mais on peut en dire un mot avec grand plaisir. Exahome, donc, c'est une recovery aussi pour un titre qui a formé une structure de retournement haussière. Donc qui date et eh bien qui s'est formé entre septembre 2022 et qui dont la sortie a été validée le 8 avril la semaine dernière, la semaine du 8 avril par le haut. Donc elle a débordé le niveau de 21,70 puissamment avec du volume. Elle est en consolidation aujourd'hui légère à 0,84% de baisse. Au-delà de ce niveau de 21,70, on a un premier niveau de résistance majeur qui est à 24,70 sur le titre, mais la cible idéale du mouvement, c'est 30,80. Si on repassait sur le titre sous 19,75, on invaliderait vraiment cette sortie par le haut et on considérait que la structure de retournement est vraiment invalidée. Mais un ratio risque-rendement qui est intéressant sur un titre qui est une petite valeur, attention, mais qui a un potentiel intéressant.
Oui, et la valeur dont vous vouliez parler au départ, c'était Dassault Systèmes.
C'était Dassault Systèmes, effectivement. Alors, j'en parle parce qu'elle va publier bientôt. On arrive dans une période qui est compliquée pour prendre des décisions. Dassault Systèmes, elle publie le 25 avril. Elle teste une zone de support intéressante qui est 37,50, 39,25, qui a été un niveau de retournement de long terme. Alors, elle baisse nettement depuis ses points hauts récents qui ont été formés à 48,87 au mois de janvier dernier. Et elle évolue donc au-delà pour l'instant ou autour de ce niveau de 39,25, qui peut être un point d'entrée intéressant sur le titre. Sous 37,50, on n'insisterait pas, mais si elle réaccélérait, elle pourrait aller chercher des niveaux autour de 43,5, 44. Donc une recovery peut-être à surveiller pour un titre qu'on considère toujours un peu cher sur le marché, mais qui a bien pas mal consolidé et qui est un peu en retard.
Merci beaucoup Romain Daubry, marché dérivé et info d'expert chez Bourse Direct. On passe à la question du jour puisqu'on est pratiquement à 100 jours du coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris 2024. On vous a demandé aujourd'hui quelles valeurs pourront se muscler grâce aux Jeux Olympiques. On vous a proposé Accor et ses concurrents, Air France et le transport aérien en général, Sodexo ou aucune de ces valeurs. Avant de vous donner le résultat, Julien.
Aucune.
Pourquoi aucune ?
Aucune. Alors, il va y avoir un impact positif chez Sodexo. D'ailleurs, ils l'ont chiffré, je ne l'ai plus en tête, mais c'est vraiment pas énorme par rapport à leur chiffre d'affaires. Il y aura aussi un impact légèrement positif pour Accor sur les réservations, sur notamment la hausse, en fait, hein, des prix des chambres. Ce qu'on appelle dans le secteur le REF par, le revenu disponible par chambre. Il y aura une hausse dans la banlieue de Paris. Mais tout ça, ça va rester à des niveaux assez limité et c'est probablement déjà intégré par le marché. Quant à Air France KLM, l'impact est un peu plus mitigé parce que vous avez des gens vous avez plus de vols internationaux, mais vous avez moins de gens qui se déplacent dans la France en fait et qui partent. Donc ça se contrebalance un peu. Donc pour moi en fait, il y a pas de valeur qui va bénéficier de l'effet des Jeux Olympiques. Le truc qu'on pourrait peut-être voir, c'est un ETF JO 2024 qui pourrait se créer. Ouais, pourquoi pas.
Restauration collective, moi j'y crois pas. Enfin, il y aura une activité restauration collective, mais les touristes qui vont venir à Paris pour les JO vont plutôt aller consommer dans les restaurants plutôt que dans les cantines.
Ouais, mais après, Sodexo, en fait, ils ont une division sport, si vous voulez, où ils nourrissent,
oui, bien sûr,
tout ça. Après, ça reste, mais il y a quand même quelque chose, en fait.
Ouais. L'hôtellerie, en raison des prix pratiqués, on l'avait vu pour les Jeux Olympiques de Londres, des touristes avaient annulé leur chambre d'hôtel et certains hôtels n'étaient pas complets lors des Jeux Olympiques. Ça paraît incroyable, mais il faut se méfier aussi de cet effet sur l'hôtellerie. Les prix ont beaucoup monté, mais il peut y aussi y avoir sur la fréquentation.
IAG le disait assez bien dans son rapport annuel de 2012, en fait, où il parlait de faiblesse du marché londonien local, en fait.
Allez, le résultat de cette consultation sur les réseaux sociaux, 38% Accor, donc vous êtes une majorité à penser que le groupe Accor et ses concurrents, donc l'hôtellerie, vont profiter, vont se muscler grâce aux Jeux Olympiques, et 35% comme Julien pensent qu'aucune de ces valeurs ne va particulièrement profiter des Jeux Olympiques de Paris 2024. On change de sujet dans l'actualité également, évidemment l'attaque d'Israël ce week-end par l'Iran. 300 drones et missiles ont été lancés par Téhéran et l'armée israélienne, Tsahal, a indiqué que 99% des tirs avaient été interceptés. Julien, le pétrole n'a pas flambé. Là encore, on aurait pu s'attendre à une réaction particulièrement violente sur les cours du pétrole.
Oui, c'est ce qu'on surveille toujours. Alors là, si vous regardez, moi, au moment où j'ai écrit un peu de venir, les deux contrats pétroliers principaux, là, qui sont le Brent et le WTI, perdait 0,7-0,6%. Bon, il faut comprendre qu'en fait, que l'embrasement au Moyen-Orient, il avait déjà été plus ou moins partiellement intégré dans les cours. Je rappelle, l'offensive de Téhéran, elle vient pas de nulle part, elle vient en fait d'une attaque d'un consulat iranien en Syrie que l'Iran avait attribué à Israël. Et donc, c'est en fait une riposte. Donc, dû à ça, il y avait déjà des informations qui circulaient la semaine dernière sur une riposte de l'Iran. Donc, on commençait déjà à se préparer. Le marché, il était préparé mentalement.
Et c'était déjà intégré dans les cours en partie ?
En partie, tout à fait. Et ce que nous dit, en fait, Tamas Varga, qui est un analyste spécialiste du pétrole, ce qu'il nous a dit, c'est que la frappe a été très attendue. Et maintenant qu'elle s'est produite, elle n'a pas entraîné de rupture d'approvisionnement, en fait.
Ouais. On relativise. Évidemment, aujourd'hui, il y a quand même la question de savoir si et quand, éventuellement, Israël pourrait répliquer.
Oui, c'est un peu la grande question. Maintenant, le risque, il est nuancé. L'Iran a déclaré que la mission avait été accomplie, tandis que les États-Unis ont déclaré qu'ils ne cherchaient pas à déclencher une guerre plus large avec l'Iran, un message tacite à Israël, selon lequel ils ne soutiendraient pas l'État hébreu en cas d'offensive contre l'Iran. En somme, une escalade ne semble pas possible pour le moment. C'est ce que nous dit de nouveau Tamas Varga. Donc, vous voyez, en fait, on ne croit pas vraiment à une riposte d'Israël. On pense à un risque de désescalade. C'est ce que d'ailleurs nous dit également les analystes de Royal Bank of Canada qui nous disent qu'en fait, cette guerre pourrait entrer dans une phase de désescalade. Enfin, pas facile à dire.
Désescalade.
Hein. Désescalade, merci beaucoup. Si le gouvernement israélien suit les conseils de la Maison-Blanche, et a priori, ce serait le cas. Je mets des pincettes parce que il faut toujours mettre des pincettes sur ce genre d'informations, mais a priori, on ne rentrerait pas forcément dans une riposte. Ouais. Donc, le marché, en fait, finalement, il dit bon.
Oui, réaction donc plutôt posée du marché aujourd'hui. On est en hausse de 0,6% actuellement sur le CAC. Il y a quand même une conséquence, puisqu'on a vu aujourd'hui les valeurs de la défense progresser un petit peu.
Oui, si vous regardez, Thales est en hausse de 1,8%, Dassault est un peu au-dessus de 2%, BAE Systems, une valeur britannique, et pas moins de 2%, et Rheinmetall. Rheinmetall, c'est une valeur allemande qui a beaucoup progressé et qui fronde des blindés à l'armée allemande, est aussi en hausse de 2%. Jeffries nous dit que, en fait, l'actualité qu'il y a eu ce week-end, elle est plutôt de nature à soutenir les cours des valeurs de la défense. Maintenant, vous voyez bien que c'est pas une envoyée non plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un peu un débat actuellement sur est-ce qu'il y a encore du potentiel dans la défense. La semaine dernière, il y avait une note de Goldman Sachs qui disait qu'en fait, ce secteur était pleinement valorisé. D'ailleurs, ça avait fait pas mal tanguer. C'était pas le seul élément qui jouait, mais ça avait fait tanguer les valorisations ce jour-là. Donc la réaction reste mesurée. Et par ailleurs, je rappelle, c'est vrai que c'est des groupes qui ont beaucoup progressé si on regarde sur le moyen terme. Rheinmetall, c'est d'ailleurs en hausse de 80% depuis de l'année, et ça fait 500% sur 3 ans.
Ouais.
Thales, notre champion du CAC 40, on est plutôt sur 88,5% sur 3 ans. Donc vous voyez, on mesure un peu, il n'y a pas un risque d'embrasement, mais ça porte un tout petit peu le secteur de la défense.
Merci beaucoup, Julien. On va maintenant accueillir notre invité du Bullshito. Vous le savez, tous les jours, un invité vient nous rejoindre en plateau pour contredire, démonter une idée reçue. Aujourd'hui, on accueille Stéphane Van Nuffel, cofondateur de netinvestissement.fr. Il va nous rejoindre en plateau. Bonjour Stéphane, merci d'être avec nous. Vous dites une fois de plus, on entend souvent, pardon, une fois de plus, l'or va sauver les épargnants et vous n'êtes pas d'accord.
Et non, je ne suis pas d'accord, je dis bullshit.
Première chose avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, c'est le statut de valeur refuge. Vous dites l'or, ça n'est pas une vraie valeur refuge. Pourtant, c'est ce qu'on nous a toujours appris.
Alors, je dis que surtout l'or est une valeur refuge, mais dans l'inconscient des épargnants, et pas qu'en France, dans quasiment la planète entière, en tout cas le monde occidental. Et c'est ça que je combats aujourd'hui en disant, ben non, c'est du bullshit, parce qu'on va le voir, l'or n'a rien du tout d'une valeur refuge réelle, comme je vais vous donner deux, trois autres exemples très concrets, et je ne comprends pas aujourd'hui, en pratiquant tous les jours les épargnants, que ce soit encore, avec les derniers événements des 48 heures, une réalité. Et c'est ça qui m'inquiète, parfois, même si il faut pas non plus...
Il progresse pas beaucoup l'or aujourd'hui. À la suite.
Non, on reste proche des niveaux records. Mais pourquoi est-ce que les épargnants ont ce réflexe, Stéphane?
Parce que, historiquement, l'or, c'était l'étalon, c'était la monnaie depuis 5000 ans. Hein. Grosso modo, vous aviez de l'or, vous aviez le métal sur lequel l'humanité, de gré à gré, s'est dit que c'était le plus précieux. C'est pas un métal très utile, donc on comprend pas vraiment pourquoi, sauf que depuis maintenant, on va pas faire de l'histoire, mais depuis déjà 1944, les accords de Bretton Woods, puis ensuite 1971-1976 avec les accords de la Jamaïque, on sait que c'est fini. Le dollar a pris la place de l'or, puis même le dollar est rentré en change flottant. Donc en fait, aujourd'hui, il n'y a plus réellement de logique à ça. On sait juste que les Français ont pris l'habitude d'avoir des petites chaînes en or, des petits bijoux, etc. Et c'est le petit bas de laine qui fait qu'on est rassuré quand on a de l'or.
Oui, mais quand vous regardez en fait la récente hausse des cours de l'or, certains intermédiaires financiers comme Bank of America ont induit ça à des achats physiques. Hein. Des épargnants chinois par exemple qui achètent parce que la bourse chinoise elle va pas très bien, l'immobilier chinois va pas très bien. Donc pourquoi est-ce que ces épargnants ils ont un petit peu ce réflexe de dire on va investir dans l'or parce que finalement c'est solide?
Franchement, c'est toute la question et c'est pour ça que je dis aujourd'hui bullshit. Parce qu'en fait, il n'y a pas de réponse. On est sur une notion totalement inconsciente. Je vais vous donner un exemple, c'est très intéressant comme question. On achète de l'or physique. À la limite, vous achetez un louis d'or ou un napoléon qui a 200 ans, qui est une pièce assez rare. Donc, au-delà de la valeur purement gramme d'or, vous avez aussi le savoir-faire qui fait que souvent, elle vaut plus que son pesant d'or. Si je peux m'exprimer ainsi. Bon, là, à la limite, je peux comprendre. Mais on voit à l'image des lingots d'or. Aujourd'hui, avoir des lingots d'or chez soi, s'il y a quelque chose qui se passe mal et qu'on se retrouve dans une situation un peu triste et un peu dramatique, où finalement, on veut vraiment avoir une valeur refuge qui nous sert à quelque chose pour survivre, nous nourrir, nous défendre, boire, l'or ne sert à rien, a fortiori, en lingot d'or à transporter. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que vous parlez de l'immobilier. Oui, l'immobilier chinois, il peut être inquiétant pour des Chinois. Mais un appartement, ça s'habite. Vous voyez ce que je veux dire? Au moins, un appartement, ça s'habite.
On peut toujours s'asseoir sur ses lingots.
Exactement. Je vais donner un exemple parce que je suis un bon bordelais. Oui. Attends, il est en forme d'aujourd'hui, dites-donc.
Votre chaise en or.
En bon bordelais. Alors attention, je fais pas de prosélytisme. Il faut prendre de l'alcool avec modération. Mais en bon bordelais, j'ai des clients qui me disent quand on investit dans des millésimes de vin, même si demain on décidait tous qu'il n'y avait plus de valeur à avoir un grand château de Saint-Émilion,
on peut toujours le boire.
Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est là où la notion de la valeur de l'or que je n'arrive pas à comprendre, la valeur n'a aucune utilité fondamentale. Elle ne crée rien, elle ne crée aucune rente, elle ne crée aucune valeur. Un bien immobilier crée un loyer, crée une jouissance, une résidence secondaire, etc. Un vin se boit. C'est comme une œuvre d'art. On donne la valeur à l'or qu'on a tous décidé de lui donner. Donc j'ai envie de dire, faisons la même chose aujourd'hui avec des nouvelles technologies et pourquoi pas avec, par exemple, le Bitcoin. Parce qu'on pourrait faire exactement le rapprochement entre les deux. Avec mon cher Julien, la rareté en plus.
Donc ça veut dire quoi ?
Le Bitcoin qui n'est pas le cas pour l'or, puisqu'il reste 80% des réserves d'or à extraire.
Ça veut dire quoi, Stéphane ? On écarte l'or, a priori, quand on cherche à investir ?
Et c'est là où je suis intellectuellement à la limite de l'honnêteté, c'est que je vais vous dire, non, parce que comme il y a quand même un consensus. Oui. Il y a quand même un consensus de marché international, et vous l'avez rappelé, c'est très intéressant, parce que c'est pas qu'en France. Autant en profiter. Mais j'attire l'attention des épargnants et de nos auditeurs en leur disant, surtout faites très attention, le marché de l'or, on l'a touché du doigt, c'est des lingots, c'est des pièces, c'est des mines d'or, donc ça peut être des actions ou des obligations dans des papiers qui touchent à des entreprises qui extraient de l'or. C'est un marché extrêmement complexe, contrairement à ce qu'on croit. C'est pas simplement détenir de l'or sur son matelas va nous sauver la vie. On peut faire des choses très très bien avec la valeur.
On peut investir dans un fabricant de pelles et de tamis.
Exactement. Vous avez raison, c'est une économie extrêmement importante. Mais vous avez compris le principe. L'or pur, c'est-à-dire vraiment le truc qui attire tout le monde, l'once, qui a très très bien marché ces dernières années. Hein, on est à 10% l'an. Hein. Si on étire sur 10 ans, il y a peu de valeur qui donne cette rémunération avec si peu de risque, entre guillemets. Mais comme ça ne crée rien, j'attire juste l'attention des épargnants en disant vous ne gagnerez de l'argent qu'en spéculant. Il n'y aura jamais de dividendes, de rente ou de revenus. C'est simplement le mouvement de foule global, international et historiquement multimillénaire, j'ai envie de dire, qui peut vous donner potentiellement un gain.
Oui, alors d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites, parce que du coup, l'or, il faut le comparer au CAC 40, il faut le comparer non pas au CAC 40, mais au CAC 40 GR, dividende réinvesti, puisqu'il produit des revenus.
Théoriquement.
Pour comparer avec l'or. Juste.
Qui, lui, est à 24 407 points.
Tout à fait.
Bien au-dessus du CAC. Oui, c'est une différence.
Et du coup, comment ça se passe avec vos clients? Qu'est-ce que vous leur dites par rapport à l'or? Comment quel travail de pédagogie vous faites finalement avec eux?
Je vais vous dire, on va résumer ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, et je pense que c'est obligatoire de le rappeler. Il faut diversifier. Donc évidemment, un client dans son portefeuille, au-delà de son assurance vie, etc., mais dans les différents actifs qu'il détient, et quelle que soit la façon dont il le détient, il est évident que l'actif or, comme n'importe quel autre métal précieux ou matière première, peut avoir du sens aujourd'hui. Ça pourrait être le cas aussi pour le pétrole, dans ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des opportunités, malheureusement, quand il y a des crises géopolitiques au Moyen-Orient. L'or, c'est pareil. La problématique, je le redis, c'est qu'il faut dire à nos clients, n'imaginez plus, vraiment une bonne fois pour toutes, que ça va vous sauver la vie si vraiment tout part avec l'eau du bain. Vous voyez, si vraiment il y a une crise, et vous parlez de la Chine, c'est hyper intéressant, parce que ce réflexe de Chinois qui sont finalement assez jeunes dans l'économie de marché, intellectuellement, ils voient la bourse qui dérape, ils voient l'immobilier qui dérape, alors qu'ils ont été des ultra-spéculateurs sur l'un comme sur l'autre, et ils se rabattent finalement sur quelque chose qui n'a pas vraiment, pour eux, d'intérêt fondamental.
Et juste, je me permets, du coup, pour vous, c'est quoi les valeurs refuges, si elles existent?
Alors moi, fondamentalement, je pense que la valeur refuge initiale, c'est la pierre. Quoi qu'il arrive, c'est pour ça que c'est le placement préféré des Européens et en particulier des Latins. Parce qu'en fait, il faut qu'une valeur refuge, elle ait une valeur potentiellement de transaction, la spéculation, on va appeler ça comme ça. Mm-hmm. Sa valeur peut monter selon la demande et l'offre. Mais surtout que pendant ce temps, elle vous génère une utilité et un revenu. Donc une bonne valeur refuge, pour moi, c'est un actif tangible, palpable, qui vous rapporte des rentes avant même de pouvoir vous faire gagner de l'argent en spéculant. Et malheureusement, c'est tout le sujet, et c'est pour ça que votre émission existe, de la bourse. Les gens oublient de faire la différence quand on investit dans une action entre ce qu'elle va rapporter, dividendes intégrés, et simplement la spéculation, parce qu'ils veulent tous faire Nvidia x 10, x 100, x 2100 en 5 ans. Et c'est exactement ça qui peut se passer sur l'or, avec une spécificité, je le redis. On s'est tous mis d'accord sur ce métal, mais moi, je serais un investisseur, j'investirais dans du lithium ou du platine. Voilà des métaux qui sont beaucoup plus utiles dans notre vie quotidienne, dans les batteries, etc., etc.
Oui, après, le platine, ça fait des pots catalytiques. Hein,
Attendez qu'il y ait des pots hydrogène, vous verrez si jamais si l'industrie hydrogène du transport se multiplie, il faudra du platine dans toutes les batteries et les systèmes d'évacuation.
Bon, le message, ça reste diversifié.
Évidemment.
De l'or, on peut en avoir, mais pas uniquement. C'est un petit peu pareil pour l'immobilier. On ne met pas tout son argent dans la pierre.
De toute façon, on ne met jamais tout son argent, tous ses œufs dans le même panier, mon cher Stéphane, pour vous suivre un peu aujourd'hui, en pleine forme également le lundi.
Allez, on va vous rester avec nous. Merci, merci Stéphane. On va passer à notre Factor X. C'est un poste de Walter Bloomberg qui nous parle d'un objet qui vaut pratiquement plus cher qu'un louis d'or, c'est un iPhone. Les ventes d'iPhone ont reculé de pratiquement 10% au premier trimestre.
Oui, un bon iPhone, ça vaut la moitié d'une once d'or, hein, en fait, à peu près. Hein, oui. 1400 $ contre 2300 et quelques dollars, il me semble, pour l'once.
Oui, pratiquement 2004,
oui. Oui, ouais. Oui, voilà. Donc, ce qui s'est passé.
2363.
Oui, voilà. Donc,
dollars, l'once d'or.
Grosso modo, deux iPhones de plutôt haut de gamme. Oui. Il se trouve que, comme vous l'avez dit, hein, c'est les chiffres du cabinet IDC qui montrent qu'en fait, les ventes de smartphones, elles remontent. Mais Apple, de son côté, subit un trimestre pire que prévu, puisqu'on est sur une baisse de 10%. C'est pire que ce que les analystes redoutaient. Hein. Il se trouve que Apple voit sa part de marché reculer. Le leader, en fait, ça reste Samsung hein, sur le marché des smartphones. Mais en fait, quelqu'un qui a le vent en poupe, c'est Xiaomi, qui progresse de 33% sur le trimestre. Apple a vraiment du mal. Mais si vous regardez l'action à Wall Street, elle est pas... Normalement, elle est pas. Parce que quand j'ai regardé, elle n'était pas en train de trop souffrir.
Oui, elle était en légère baisse à l'ouverture.
Tout à fait, il me semble. Parce que finalement, ça confirme une tendance qu'on avait déjà eue, hein, que ce soit en janvier ou en février.
On perd 0,9%.
Ça allait pas bien en Chine. Hein, et que les ventes d'iPhone. Donc, on attend Apple au redémarrage, à la reprise. Mais la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez vu ça. C'était Stéphane. Stéphane.
L'élite.
Il y avait pas mal de notes, en fait, qui commençaient à dire que le marché était peut-être un peu trop pessimiste hein, sur Apple, qu'avec le recul du titre, les hedge funds étaient un peu plus optimiste maintenant que ça va être moins cher et que par ailleurs c'est Bank of America qui disait que le marché a tendance à sous-estimer les marges brutes du groupe. Donc à voir s'ils peuvent inverser la tendance dans les prochains mois. Il y aura normalement l'iPhone 16, je dis bien, ils l'ont pas encore appelé, c'est pas encore officiel, qui devrait être présenté à la rentrée.
Mais est-ce que c'est vraiment une surprise la baisse des ventes d'iPhone? On sait depuis pas mal de temps qu'en Chine par exemple il y a des problèmes les ventes d'iPhone sont décevantes en Chine. En tout cas, on suivra l'action. Elle perd 0,9% actuellement, $174.96. On va parler des publications de résultats, c'est notre chiffre du jour. 5, c'est le nombre d'entreprises sur le CAC qui vont publier cette semaine.
Oui, alors vous avez LVMH mardi, EssilorLuxottica, L'Oréal, ça c'est jeudi si je ne me trompe pas, Danone et Edenred. Et j'ajoute que vous avez aussi, que tout, il n'y a pas que le CAC 40 dans la vie, il y a les valeurs qui sont proches du CAC 40. Et vous en avez deux qui sont pas très loin en fait de l'indice parisien, c'est Sodexo, le groupe de restauration collective, pour qui j'ai toujours eu un léger affect, je ne vais pas m'en mentir. Notamment parce qu'ils sont en exercice décalé et qu'ils publient des résultats, donc c'est toujours assez intéressant de voir. Et vous avez Française des Jeux, FDJ, qui a toujours cette épée de Damoclès, vous savez, l'enquête sur les droits exclusifs de la Commission européenne. Donc est-ce qu'ils pourront nous en dire plus ? On verra. Et qui en plus a racheté un grand groupe suédois, vous savez, Kindred, en début d'année, c'est un projet qui devrait être finalisé au cours de l'année. Donc pas mal de choses en fait sur ces deux valeurs. D'autant que Sodexo, eux, ils ont cédé, enfin, ils ont coté en bourse Pluxee. Qui devrait aussi publier ses résultats cette semaine.
Donc des publications à suivre effectivement cette semaine, et puis dans les prochains jours on aura, on plaisantait un petit peu tout à l'heure, même si c'est un sujet évidemment grave pour notre pays, l'éventuelle dégradation par les agences de notation. Avant la fin du mois, on aura deux agences qui vont se prononcer, c'est également sur l'agenda, et S&P qui se prononcera à la fin du mois de mai.
Bon, sujet grave, honnêtement, les tensions Moyen-Orient sont beaucoup plus inquiétantes pour les personnes qui vivent là-bas que les négrations.
Absolument, absolument, mais ça peut avoir un impact sur ce qu'on appelle la charge de la dette. Stéphane, vous n'étiez pas avec nous tout à l'heure, on a sondé nos auditeurs et téléspectateurs sur les valeurs qui pourraient se muscler grâce aux Jeux Olympiques. On a proposé Accor, Air France, Sodexo ou aucune de ces valeurs.
Je suis d'accord,
l'impact
objectivement des Jeux Olympiques. Objectivement Accor, parce qu'il va y avoir une course, c'est déjà le cas, hein, au remplissage, je ne sais pas si c'est le terme, des nuitées, etc. Et puis tout le reste des activités que le groupe Accor peut développer. Mais c'est vrai que Sodexo, je n'avais pas pensé, parce qu'on regarde moins souvent maintenant qu'ils ne sont plus dans le CAC 40, ou en tout cas qu'ils sont à la porte. Mais c'est vrai que c'est un groupe qui peut avoir aussi son coup à jouer.
Ouais. Bon, après, ils ont chiffré, hein, pour le coup, l'impact estimé des Jeux Olympiques, et c'était pas, et paralympiques d'ailleurs, hein. Les deux sont dedans, hein,
c'est juste.
Et honnêtement, il était pas énorme. Juste pour ça que je pense que comme ils l'ont chiffré, il est déjà intégré. C'est pour ça qu'à mon avis, lors des épreuves, il y a aucune valeur qui en profitera. C'est mon humble avis.
Et on soulignait tout à l'heure sur le prix des hôtels. Évidemment, les prix ont flambé, mais à Londres, lors des Jeux Olympiques, les prix avaient tellement flambé que les hôteliers avaient subi une vague d'annulation, et qu'au final, pas mal d'hôtels avaient des chambres libres au moment des Jeux Olympiques, ce qui peut paraître évidemment incroyable pour un événement comme celui-ci.
Et surtout qu'il n'y avait pas encore l'impact de Airbnb et consorts à l'époque de 2012 à Londres, ce qui ne va pas être le cas à Paris également.
Merci beaucoup à tous les deux pour la famille. Je vous rappelle la séance en cours à la Bourse de Paris. On y reviendra évidemment dans un instant. Le CAC toujours en progression, mais ça s'est un petit peu tassé, hein, depuis le début de l'après-midi. On gagne 0,48%. Il y a une heure et demie, on gagnait encore 1,3%. Du côté des valeurs qui se distinguent, Stellantis, on aura l'occasion d'y revenir, 2,6%. Demain, Assemblée Générale du groupe avec trois sociétés de conseil aux actionnaires qui se sont mobilisées contre la rémunération de Carlos Tavares. Un peu plus de 36 millions d'euros. Ça vous fait sourire, Stéphane ?
Ouais, je ne comprends pas.
Cette
mais
fois,
rien, mais les résultats sont exceptionnels.
Cette fois, la moyenne des revenus de ses pairs en Europe. Bon, c'est un petit peu démago. En tout cas, ça sera à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale de Stellantis demain. Et puis, on en parlait il y a quelques instants, mais LVMH qui va publier dans les prochains jours. Le titre est en hausse de 1,5% à l'autre bout du tableau. Société Générale, plus forte baisse actuellement sur le CAC. On perd 2,8% sur le titre, 2,02% pardon, sur le titre Société Générale. On marque une pause. Dans un instant, on fera l'essentiel de l'actualité économique. On est un peu en avance. J'essaye de meubler avec Marjorie Adelson. Et puis, ce sera l'heure du club avec nos invités. On va vous parler évidemment de la réaction des marchés plutôt modérée par rapport à ce qui s'est passé ce week-end, l'attaque contre l'État d'Israël. Et puis, on parlera de ces chiffres qui confirment une fois encore la bonne santé de l'économie américaine, mais qui renforcent aussi l'hypothèse d'un statu quo monétaire qui pourrait se prolonger jusqu'aux élections en fin d'année. Évidemment, ça n'arrange pas les affaires de la BCE qui voit ses marges de manœuvre un petit peu contrainte. On marque une pause et on se retrouve tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.